Ce sont des lycéens de deux établissements qui s'étaient donné rendez-vous pour...
Naturellement, vous aviez envie d'en découdre.
La machine à découdre. Une émission qui détricote l'actualité en points croisés. Bienvenue sur le 89.5 d'Audio, il est 19h08, on prend l'antenne avec un peu de retard, c'est la machine à dissoudre ce soir. Émission spéciale puisque au micro, il y a la petite équipe du Couac et une partie de l'équipe de Halt au contrôle numérique qui, du coup, ni d'actualité locale, ni du numéro 13 du journal en cours de diffusion, mais qui va pendant une heure vous proposer une réaction à la menace de dissolution de Nantes Révoltée. Nantes Révoltée, qui est un site d'information et d'investigation nantais, et menace de dissolution qui a été annoncée par Darmanin le 27 janvier dernier. Donc face à une époque qu'on pourrait qualifier de honte en couleur, mais avec un fond de l'air qui est clairement brun, nous allons essayer de poser le décor politique, législatif et autoritaire qui sous-tend ce genre de menaces et d'attaques aux libertés en tout genre, mais notamment aux libertés d'informer et de s'exprimer. Le point de départ de l'émission repose notamment sur le fait que le Couac, en tant que média local officieux, on peut se qualifier comme ça, a signé une lettre de soutien à Nantes Révoltée qui a été rédigée par l'équipe d'un journal indépendant niçois. Avant de dépasser un peu le cadre de la presse et d'évoquer plus largement celui des contre-pouvoirs et des oppositions, on vous propose une lecture d'extrait de ce texte que le Couac a donc signé.
Gérald Darmanin, après la réclamation d'élus de droite et de la majorité, a annoncé avoir engagé une procédure de dissolution contre Nantes Révoltée. Contre cette mise en scène délirante de la censure d'un contre-pouvoir local essentiel, nous, médias libres, journalistes, citoyens, citoyennes, affirmons que nous ne nous laisserons pas advenir ce dangereux précédent. S'en prendre à ce média, c'est s'en prendre à nous toutes, à nous tous. La France du général Macron commence à voir, dans le domaine de la liberté d'expression, des signaux qui virent fâcheusement au rouge. Rétrogradée à la 34e place sur 180 pays dans le classement de RSF sur la liberté de la presse, elle est régulièrement condamnée pour les nombreuses violations du droit d'informer dans le cadre du nouveau schéma national de maintien de l'ordre et du projet de loi dit de sécurité globale. Les manifestations sont devenues pour partie des zones de non-droit dans lesquelles le travail des journalistes est de plus en plus compliqué à exercer, voire toujours plus dangereux, avec de nombreux cas de reporters blessés par les tirs de LBD, arrêtés arbitrairement ou privés brutalement de leur matériel de reportage. Très récemment encore, l'audition devant le Sénat de Bernard Arnault et Vincent Bolloré, le premier ayant mis en place l'espionnage du journal local d'investigation Fakir et le second ayant racheté massivement les médias afin d'en faire une gigantesque plateforme de propagande pour l'extrême droite, les a vus éviter toute question dérangeante sur leur pouvoir économique et médiatique et se poser en gentil philanthrope connaissant mal l'univers des médias, murmurant « L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que ces entreprises puissent devenir rentables et de faire en sorte que ce petit groupe de presse prospère. C'est notre objectif et ça ne va pas plus loin. » Mouais. Et voilà donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'un président de la République pour lequel les journalistes ne sont là que pour véhiculer avec dévotion sa sainte parole venue d'en haut, s'en prend frontalement et brutalement à l'un des nombreux médias indépendants et de proximité qui, dans tout le pays, dans les villes et les villages, souvent à base de bénévolat et d'autofinancement, tentent de faire vivre l'éthique journalistique sobrement résumée par Albert Londres dans une formule citée souvent « mettre la plume dans la plaie ». Donc, déplaire, déranger, mettre le pouvoir face à ses contradictions, ses violences et ses failles et donner voix à celles et ceux qui ne l'ont pas. Cette demande de dissolution se fait notamment, nous rapporte Nantes Révoltée dans son communiqué, par les voix de la responsable LREM de Nantes et de la présidente de la région Pays de la Loire qui se sont affirmées soucieuses de ne plus laisser prospérer cette idéologie anarchiste et haineuse plus longtemps, affirmant que Depuis près de 10 ans, des centaines de policiers et d'habitants ont été blessés au cours de ces manifestations violentes. Côté policier, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de ces manifestations, de nombreuses personnes ont été arrêtées, blessées, mutilées par les forces de l'ordre. Et que ces exactions ont été dûment renseignées par l'équipe de Nantes Révoltée, qui remplit depuis des années avec minutie et passion son rôle de contre-pouvoir médiatique local. Pire, Nantes Révoltée a accusé de nuire à l'image et à l'attractivité de la capitale régionale. Comme si le rôle de tout organe de presse était de relayer complaisamment la propagande municipale. Au moins, le propos est clair. Médias, faites-nous de la pub ou bien disparaissez. Problème. En tant que médias documentant les luttes sociales et environnementales, Nantes Révoltée, comme il et il le répète avec insistance à chaque fois que cette accusation leur est faite, ne fait que relayer ses appels à manifester. Puis, en bon média local, ses membres se rendent dans les manifestations afin de les couvrir et de rapporter ce qui s'y passe. En gros, Nantes Révoltée fait son travail. C'est notamment Nantes Révoltée qui, le lendemain de la fête de la musique en 2019, avait publié les vidéos de la charge policière qui avait été fatale à Steve. La dissolution pure et simple d'un média ayant simplement relayé des appels à manifestation et couvert ces dernières constituerait une atteinte directe aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, et serait un précédent aussi dangereux qu'inacceptable. Nous, médias et journalistes indépendants, ne pouvons accepter ni rester silencieux devant cette énième attaque du pouvoir macroniste qui piétine depuis 5 trop longues années les principes de la démocratie dans laquelle nous sommes censés vivre. S'en prendre à ce média, c'est s'en prendre à nous toutes, à nous tous. Si ce projet de dissolution est mené à son terme, Darmanin peut être sûr que chaque média de ce pays verra fleurir dans ses pages une rubrique « Nantes révoltée » où nos camarades trouveront hospitalité et que des mobilisations seront menées dans chaque lieu où la presse alter existe, c'est-à-dire partout. Nous avons des plumes, mais nous avons aussi des dents, et nous savons mordre.
Merci pour la lecture. Donc c'est un long extrait d'un texte qui est disponible sur Mediapart, qui a donc été rédigé par la bande du journal niçois qui s'appelle Mouais, et qui a été signé par nombre de tirites de presse indépendantes. Quand on parle de liberté d'expression, c'est un peu une liberté chérie, je dirais quelque chose comme ça. Du coup, les réactions depuis le 27 janvier et l'annonce de Darmanin là, avec sa grande menace, on a des réactions politiques et médiatiques qui ont été nombreuses. Chez les journalistes avec ou sans carte de presse ou sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui nous intéresse un peu ce soir, c'est de se dire que cette menace de dissolution, elle ne sort pas de nulle part et elle s'inscrit dans un processus autoritaire qui est à l'œuvre dans la Macronie depuis maintenant 5 ans, mais on pourrait presque dire depuis sûrement 20 ans de néolibéralisme un peu ravageur. Ce soir, on va donc parler de militants et de militantes, d'islamo-gauchisme, de séparatisme bourgeois, de numérique, d'arsenal technologique, de surveillance, d'islamophobie et de pratiques étatiques qu'on pourrait qualifier de fascisantes. Bienvenue donc dans la machine à dissoudre pour en découdre avec Darmanin et son monde.
On est face à un régime qui, à mon avis, est de plus en plus autoritaire, qui méprise les libertés. Là, on voit qu'il méprise la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ça nous dit qu'on a un gouvernement qui supporte de moins en moins toute forme de contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une forme de, comment dire, de liberté d'expression autorisée par l'État. D'une certaine manière, il y a la bonne liberté d'expression et la mauvaise liberté d'expression. Ce qui est contradictoire parce que le principe de la liberté d'expression, que ce soit en droit ou dans le sentiment intime que chacun peut en avoir, le principe de la liberté d'expression, c'est que ça doit protéger même les idées avec lesquelles on n'est pas en accord. Donc là, on a effectivement un média, Nantes Révoltée, qui a un style parfois un peu pamphlétaire, un peu drôle, un peu piquant, et c'est son droit. Et en France, heureusement, on a dans la presse une tradition historique de médias très engagés, d'ailleurs sur tout le champ politique, qui parfois n'y vont pas par le dos de la cuillère. Donc Nantes Révoltée a s'inscrit dans cette tradition-là, dans cette lignée-là. Et à côté de ça, ils font aussi un travail. Alors, ils n'ont pas de carte de presse, mais parfois un travail qui s'apparente à un travail de journaliste. Et des interviews, des formes de reportages. Pour répondre à ta question, ce que ça dit de ce régime-là, c'est que ça confirme cette intuition que nous avions déjà depuis quelques années, à savoir qu'on est face à un régime qui peut être qualifié de libéral autoritaire, de libéralisme autoritaire, pour reprendre l'expression d'un philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou et qui a travaillé sur l'origine du néolibéralisme.
Et c'était un extrait de Blast, où l'avocat Raphaël Kempft, interrogé par David Dufresne, nous explique un peu qui est ce gouvernement. Et justement, on va essayer d'en savoir un peu plus en parlant de deux de ses protagonistes.
Petit point biographique de Gérald Darmanin. Jeune homme politique, puisqu'il est né en 1982, et connaît dès l'âge de 17 ans une sorte d'élan gaulliste, puisqu'il adhère aux jeunes du RPR et fait ses armes dans ce groupe de jeunesse politique qui est quand même qualifié à l'époque par le Canard enchaîné de mouvement catholique traditionnaliste à tendance intégriste. À 22 ans, en 2004, Darmanin est délégué de la 10e circonscription du Nord aux côtés du député Christian Van Est. Qui est Christian Van Est? Très rapidement, c'est un gars à l'époque du RPR puis de l'UMP qui a été condamné pour homophobie suite à des actes et des propos qualifiant les personnes homosexuelles de « menace pour l'humanité », je cite, « qu'il faudrait rééduquer ». En 2008, par égarement ou volonté idéologique, Darmanin écrit quelques articles sans talent à Politique Magazine, organe de presse de l'Action française royaliste, partisane d'un nationalisme intégral au relent pétainiste. En 2010, Darmanin devient conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et est dans le même temps directeur de cabinet de David Douillet, sarkozyste et ministre des Sports. À 30 ans, en 2012, Darmanin se présente aux législatives contre Van Est et l'emporte. On commence à sentir son opportunisme politique. Il profite de sa position de député et interpelle alors la ministre des Sports depuis l'Assemblée pour lui demander d'interdire le port du voile sur les terrains de foot suite à la décision de la FIFA qui autorisait justement le port du hijab aux footballeuses. Il cultive également à l'époque son homophobie, puisqu'il a fait ses armes avec Van Est, et affiche son soutien aux intégristes de la Manif pour tous. Darmanin devient maire de Tourcoing en 2014 et tweet tranquillement qu'il refusera de marier des couples homosexuels. Il quitte son poste de député en 2015 au profit de celui de vice-président des Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Sentant alors le vent politique tourner et cultivant encore et toujours son opportunisme, Darmanin quitte les Républicains en 2016 et pointe son désaccord avec la méthode sarkozyste. Les débats identitaires sont nauséabonds. Le religieux hystérise notre vie politique. Notre identité, c'est la République. Nouvellement macroniste assumé, Darmanin est donc nommé ministre à Bercy en 2017 en charge des comptes publics. Il avait pourtant qualifié Macron quelques mois plus tôt dans une tribune de pur produit du système et de bobopuliste. Avec sa nomination au ministère, deux affaires dans lesquelles Darmanin est accusé de viol, d'agression sexuelle et d'abus de confiance sortent de l'ombre et éclatent au grand jour. Ces deux affaires sales ont pour point commun d'avoir deux femmes qui ont fait face à un homme qui a clairement usé et abusé de sa position de pouvoir, de sa position dominante et contraignante, pour obtenir en fait des services en échange de faveurs sexuelles. Darmanin est réélu maire de Tourcoing en 2020. Ses casseroles judiciaires ne l'empêchent absolument pas de continuer son carrière politique. Il cumule les fonctions, mais il ne cumule pas les indemnités qu'il tente de reverser à l'association 30 millions d'amis, tel un grand seigneur. Médiacité Lille, qui est un site d'investigation, qui est un peu un médiapart local, révèle alors l'affaire et apporte des chiffres dans ce qu'on peut communément appeler une affaire de cumulard. Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur en juillet 2020, avec le plus grand mépris pour les associations féministes. Il quitte alors le Conseil régional des Hauts-de-France et la mairie de Tourcoing. Il s'illustre au cours de l'été 2020 en parlant d'ensauvagement de la société, utilise délibérément le vocable de l'extrême droite et glisse tranquillement vers elle. Il prononce la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France et de l'ONG Baraka City à l'automne 2020. Pour lui, ce sont des officines islamistes et non des associations œuvrant dans le sens du droit et de la justice et de l'égalité. Très peu de réactions militantes et politiques à l'époque face à ce qu'on pouvait qualifier de radicalisation de l'islamophobie d'État, qui est clairement confirmée aujourd'hui, on y reviendra au cours de l'heure d'antenne. Darmanin toujours porte la loi de sécurité globale en novembre 2020 et son fameux article 24, devenu article 52, pour la grande protection des policiers et contre la provocation à leur identification. Il publie un livre en février 2021 intitulé « Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité », qui est une véritable antichambre de la loi sur le séparatisme. Il fait quand même alors face à un tollé médiatique et politique, l'accusant de racisme et d'antisémitisme, mais ça n'entache toujours pas sa carrière politique. En juillet 2021, le Parlement adopte définitivement la loi confortant les principes de la République. Cette loi permet notamment une extension des motifs de dissolution d'associations et une ingérence étatique clairement assumée qui met en péril à la fois la loi de 1901 sur les droits des associations et celle de 1905 instaurant la laïcité et la séparation des églises et de l'État. C'est aussi en juillet 2021 que Darmanin orchestre la destitution de deux imams, avec localement une alliance affichée avec une élue d'extrême droite qui conduit et qui permet à Darmanin d'annoncer par un tweet toujours la destitution de Mahdi Hamada, imam de la mosquée Attaqwa de Saint-Chamond, qui est accusé de propos attentatoires à l'égalité femmes-hommes. On a envie d'esquisser un sourire et on s'arrêtera là, puisqu'on sait que Darmanin sait clairement de quoi il parle en termes d'égalité homme-femme, qu'il est déconstruit, pro-féministe, et qu'il n'a aucun problème avec le genre féminin. Pour illustrer sa position, on peut encore s'appuyer sur une séquence médiatique qui, cette semaine, l'a opposé à la journaliste Apolline de Malherbe, à qui il s'est adressé avec mépris, surplombance et misogynie. On vous invite à regarder les images qui sont sur Internet. En tout cas, pour finir ce petit point biographique de Darmanin, on voit que sa conception et sa considération pour les médias et les femmes sont vraiment significatifs face à Apolline de Malherbe. Il a un rapport à la presse qui doit être seulement la porte-parole de l'action gouvernementale et un rapport à l'opposition que Darmanin légitime ou discrédite en quelques revers de main. On comprend mieux ce qui dérange et ce qui démange Darmanin dans l'opposition critique affirmée par Nantes révoltée au macronisme et à son monde.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France, j'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime, que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France d'exil. xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Après Darmanin, pas mieux, Macron. Macron se pose en parangon de la défense de la République et de ses valeurs, de la laïcité, de la liberté. Mais il faut peu gratter pour constater son mépris social, ceux qui ne sont rien, son racisme basique face au kwassa-kwassa qui amène du comorien quand même. Ses conceptions politiques, franchement réactionnaires, se constatent à travers ses tirades sur le roi dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort, mais aussi la justice, qui est une autorité, pas un pouvoir. « Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir », déclare péremptoire ce président d'un pays qui a vu naître Montesquieu. Ou encore face à des sans-papiers. « Vous avez des devoirs avant d'avoir des droits ». Ces 5 ans au pouvoir lui auront permis de remettre en cause de grandes lois républicaines, notamment celle sur la séparation des Églises et de l'État de 1905. Désormais, son ministre de l'Intérieur, Darmanin, se permet de suspendre des imams ou de dissoudre le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, au mépris de la liberté religieuse établie par cette loi. Celle de la liberté d'association de 1901, ainsi depuis le 1er janvier 2022, les associations qui demandent une subvention, un agrément d'État ou la reconnaissance d'utilité publique ou souhaitent recruter un volontaire en service civique sont soumises à un contrat d'engagement républicain qui leur impose cette obligation, floue et donc susceptible d'arbitraire, pour pouvoir dissoudre ensuite les associations déviantes. Celle enfin relative à la liberté de la presse et de la liberté d'expression, autre grande loi fondatrice de 1881, le pouvoir ne s'attaque pas vraiment aux grands médias détenus par ses amis et sponsors, les Bouygues, Bolloré, Drahi, Xavier Niel. Ce dernier résumait d'ailleurs très bien leur conception profondément antidémocratique en déclarant « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation de leur canard et ensuite ils me foutent la paix ». Ce pouvoir ne s'attaque pas non plus aux médias publics, dirigés par des personnes sûres. Par exemple, Delphine Ernot, ex-cadre d'Orange, devenue PDG de France TV. Mais il cible des sites indépendants, comme Nantes Révoltée, les réseaux sociaux, sans intervention de la justice. C'est donc selon le bon vouloir royal dont Macron a toujours rêvé.
Mais qui sont-ils? C'est le titre de Kazakh qu'on va écouter tout de suite. Vous êtes toujours sur le 89.5 de Radio Duo avec la machine à dissoudre.
Puisqu'on submerge de sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages. Escaliers que gentiment on nous héberge, mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde. Comme des hordes de barbares en afro ou à barbe que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que les vies germent dans nos épidermes, et que c'est le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme. Tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme.
Qui sont-ils?
Qui sont-ils?
utilise la force. Brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France. Et que toi tu bosses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs. Ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès. Des sales manouches, des sales bicots et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? S'arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande. Tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades. Sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade. Avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide. Leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois d'en découdre. Avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Qu'ils viennent sur les listes électorales. Et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils?
Pendant le mandat d'Emmanuel Macron, on a vraiment vu un délitement des structures qui permettent de contester socialement tout ce qui se fait. Et finalement, les associations sont un chaînon dans cette contestation. Or, la loi séparatisme s'attaque directement à ce chaînon. On l'a vu avec la proposition de loi sécurité globale. Qui s'est opposé à la loi sécurité globale? Ce sont des associations, des syndicats de journalistes, des associations de défense des libertés comme la Quadrature.
Et les citoyens.
Les citoyens, mais qui composaient toutes ces organisations. Le Conseil national des droits de l'homme a été complètement... Le Comité national consultatif des droits de l'homme a été complètement ignoré. L'ONU a été complètement ignoré. Et qui était sur le terrain à mobiliser les foules? C'était les associations et donc les citoyens qui s'organisaient là-dessus. Or, la loi séparatisme, elle s'attaque à ce dernier chaînon. Et finalement, quand Nantes révoltée se fait attaquer, menacer de dissolution, ce n'est que la conséquence presque logique de ce tournant autoritaire d'Emmanuel Macron, qui prend aujourd'hui vraiment toutes ses formes, mais qui était en germe presque depuis le début du mandat, parce que les différentes lois, on l'a dit tout à l'heure, ont vraiment été un marquant très fort de cette vision sécuritaire. Et aujourd'hui, les pouvoirs de censure qui, peut-être demain, concerneront la Quadrature, ont été accentués et sont en train d'être utilisés. Le Conseil d'État ne s'est absolument pas opposé à la dissolution du CCIF, de Baraka City, de différentes associations qui ont jusqu'à présent été dissoutes. Et ça pose un très grave problème démocratique qu'on s'attaque à ce dernier contre-pouvoir.
Nous venons d'entendre Bastien Lequérec, juriste de la Quadrature du Net, qui était interviewé dans le Média sur le bilan des 5 ans de Macron en matière de liberté numérique. Nous allons maintenant écouter Lily sur l'action du pouvoir pour contrôler les réseaux sociaux, les sites alternatifs. À toi, Lily.
Merci. Donc, en matière d'action par rapport aux réseaux sociaux, il faut d'abord parler de la loi Avia. Donc, la loi Avia qui s'appelle en réalité « Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet » et qui était apparue en janvier 2020. Rappelez-vous, cette loi s'était beaucoup fait critiquer à sa sortie parce que, d'une part, elle était à l'origine de censures unilatérales ne tenant pas compte du contexte, par exemple l'incapacité de faire la différence entre un post ironique d'un groupe féministe sur les violences sexuelles ou avec donc de vraies attaques contre la liberté de genre, mais aussi parce qu'elle ne ciblait pas seulement tout ce qui était appel à la haine raciale, crimes contre l'humanité, provocation à la discrimination de genre, etc. Elle ciblait aussi des cas cas plus flous, comme les provocations au terrorisme et les incitations à la haine ou à la violence. Donc des cas qui sont propices à toutes les dérives. À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait été signalé que la page Facebook d'Action antifasciste NP2C s'était fait supprimer, sans doute à cause de ses publications au sujet des violences policières, parce qu'ils avaient eu énormément d'avertissements juste avant donc de Facebook au sujet justement de leurs posts au sujet des violences policières. Mais déjà avant la discussion de cette loi, un certain nombre de pages Facebook militantes avaient commencé à connaître des difficultés. Suppression de posts, restreint d'accès aux pages, voire suppression de la page elle-même. Des problèmes qu'elles connaissent d'ailleurs toujours aujourd'hui. En effet, Nantes Révoltée se fait menacer régulièrement de restrictions par Facebook et Instagram, tout comme Cerveau Non Disponible, qui a vu sa page Instagram se faire désactiver en janvier 2022. Donc la loi Avia, elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel en juin 2020. Mais elle est revenue par la porte de l'Union européenne. Le gouvernement français a en effet demandé à la Commission européenne de faire adopter ce que la Constitution l'empêchait d'adopter en France. Et il en a profité du coup pour faire passer le second volet de la loi Avia qui avait été censurée et qui abordait le volet du terrorisme et qui permettait à la police le pouvoir de censurer en une heure tout contenu qu'elle qualifierait seule sans juge de terroriste. Rappelons à ce sujet qu'en droit de l'Union européenne, la notion d'infraction terroriste est volontairement large, couvrant les actes de piratage ou de destruction massive de biens, ou la simple menace de le faire, commis pour influencer une décision politique ou de déstabiliser des institutions. Comme l'avait souligné la Quadrature du Net, qui s'est battue vaille que vaille à l'époque contre ces nouvelles réglementations, laisser à la police et non au juge le pouvoir de décider ce qu'est un contenu de terrorisme, pourrait mener en fait à la censure d'opposants politiques et de mouvements sociaux. Et donc, pendant 3 ans, le gouvernement s'est battu pour défendre ce projet de loi qui est passé à l'échelle de l'Union européenne et restait à voir comment l'appliquer en France. Eh bien, vous savez quoi ? C'est justement en train de se discuter en ce moment même. Mercredi 9 février, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est réunie pour discuter justement de cette loi qui vise à censurer les contenus à caractère terroriste en ligne. La Quadrature du Net a envoyé aux membres de cette commission une lettre pour appeler au rejet de ce texte en leur rappelant que son contenu avait déjà été jugé et refusé par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2020. Il faut noter aussi qu'au niveau européen, 61 organisations et 11 européennes et 11 organisations françaises avaient demandé le rejet donc, de cette loi au niveau européen. Voté en l'état, le texte serait donc clairement contraire à la Constitution, un avis qui a d'ailleurs été partagé dans le rapport d'activité de 2020 par la CNIL, donc l'autorité qui est actuellement chargée de contrôler la censure administrative des sites internet et dont le pouvoir serait par ailleurs désormais confié à l'ARCOM, dont Denis va vous parler plus tard. On peut se demander si Darmanin, dans sa campagne contre Nantes Révoltée, compte s'appuyer sur ces nouvelles lois européennes et françaises, ou s'il ne s'agit que de la simple esbrouffe électorale. En tout cas, la menace est là, elle existe. Des exemples concrets ont en effet démontré ces dernières années les abus auxquels pouvait aboutir cette censure illégale et non contrôlée de la part de la police, comme par exemple la censure du site Nantes Indie Media, sous couvert d'une interprétation abusive de la notion de terrorisme. Une décision qui avait été finalement annulée par un juge administratif 1 an et demi après les faits. Mais avec ces nouvelles lois, on peut se demander encore quelle place aura la justice pour contrebalancer les jugements à l'emporte-pièce de la police. Aujourd'hui, on donne de plus en plus de pouvoir aux plateformes pour juger unilatéralement de faits qui auraient parfois mis plusieurs jours à être tranchés dans un tribunal. Et on renforce également la censure administrative confiée à la police qui s'affranchit de plus en plus du droit et de la justice. Quand on voit les déclarations du groupe Alliance qui dit que le principal problème de la police, c'est la justice, il y a de quoi s'inquiéter. Dans les deux cas, que ce soit dans celui de l'automatisation du contrôle par les plateformes ou celui des pleins pouvoirs livrés à la police, on voit le même risque se profiler pour les groupes, pages et médias militants, celui des amalgames et de la censure politique.
C'est difficile de dater précisément quand est-ce que ça a commencé, mais déjà sous le mandat de François Hollande, on a eu une percée sécuritaire. François Hollande, l'état d'urgence de François Hollande, mais avant même l'état d'urgence, on a eu un renforcement des pouvoirs de la police en matière de censure. On pourrait même dater tout ça de l'ère Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy a augmenté les possibilités de surveillance, de vidéosurveillance, de censure sur Internet, de censure administrative, c'est-à-dire sans passer par un juge, ou alors avec une vérification judiciaire a posteriori. Et finalement, ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron est le résultat d'un terreau déjà fertile de bases qui ont été posées par ses prédécesseurs. Ça remonte au moins à François Hollande. La crise sanitaire a été un catalyseur de ces pouvoirs ou de ces mesures de surveillance. C'est-à-dire qu'avec la crise sanitaire, on a vu se développer énormément de techniques de renseignement, de technologies de renseignement, enfin de surveillance. Et le Covid n'a pas provoqué cette arrivée de nouvelles technologies. En revanche, il a accéléré leur développement. Et au début de la crise sanitaire, nous, on avait dit la Technopolis progresse et la CNIL mouline. La CNIL est aussi un des contre-pouvoirs qui devrait être efficace et qui, en matière de surveillance, est totalement absente. Mais finalement, cette surveillance qui s'est accentuée avec la crise sanitaire, elle était déjà en germe avant, elle a été juste accélérée. C'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans les autres pays européens. Alors pas forcément sur la question du pass sanitaire, mais par exemple la question de la reconnaissance faciale qui commence de plus en plus à faire son bonhomme de chemin, se retrouve très largement utilisée notamment en Grande-Bretagne. Donc dans les pays de l'Union européenne, à diverses échelles, on a depuis en tout cas ce mouvement d'accélération de surveillance a un mouvement commun, par exemple en Belgique, alors que le Conseil d'État, sur la base de textes européens qui s'appliqueraient parfaitement en Belgique, la Belgique a continué d'utiliser des drones de surveillance, alors que probablement que leur État du droit ne l'autorisait pas plus qu'en France. Donc tout ça, c'est un même mouvement, mais la particularité, c'est qu'en France, en tout cas, nous, c'est vraiment notre impression, il y a eu une volonté de surveiller partout, tout le temps, d'aller très loin. La question du pass sanitaire, elle est très importante. La France est un des quelques pays à avoir maintenu le pass sanitaire, alors qu'on voit partout que ce dispositif de contrôle des populations est abandonné. En France, on maintient le cap et, au contraire, on l'accentue en le transformant en pass vaccinal. Or, on l'a écrit, nous, sur notre site, au-delà de la question des données qui pose problème, en août, on écrivait que ce pass sanitaire est un outil de contrôle des populations où on va imposer à la population de se surveiller elle-même, et c'est vraiment quelque chose qui presque est propre à la France, parce qu'on continue dans cette voie et rien ne laisse présager un abandon de ce type de surveillance.
Je vais vous parler de l'ARCOM, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui est la nouvelle fusion du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de l'ADOPI, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Cette autorité publique est certes supposée indépendante, mais à la française. En effet, tous ses membres sont désignés par la sphère politique, par les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, son président l'étant même directement par le président de la République. Donc très majoritairement, des mâles blancs, riches, peu divers socialement, politiquement, peu indépendants face au pouvoir en place. Son champ d'intervention est très large. Elle doit réguler les réseaux sociaux, les sites, seulement ceux comptabilisant au moins 5 millions de visites uniques par mois, les radios, les télés. Elle doit superviser les plateformes de diffusion par abonnement et celles de vidéo à la demande. Elle doit encore organiser la lutte contre le piratage et le streaming illégal, combattre la manipulation de l'information, les fameuses fake news, et la haine en ligne, je le maintiens, pour conforter le respect des principes, bien sûr, de la République. Enfin, elle doit contribuer à la protection des femmes contre les violences et des mineurs contre la pornographie. Beaucoup de ces axes relèvent d'une vision très idéologique, susceptible d'interprétation. Et elle dispose de très peu de moyens, 355 salariés et un budget de 47 millions d'euros, ce qui va réduire sa capacité d'écoute, d'investigation pour comprendre. Par ailleurs, ces modalités d'intervention sont définies par une dizaine de lois souvent très répressives et expéditives, comme celle en préparation sur la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, adaptation française du règlement européen de censure terroriste, dont on a déjà un peu parlé. Selon ce texte, l'ARCOM pourrait ordonner à toute plateforme en ligne le retrait ou le blocage en une heure d'un contenu qu'elle déclarerait terroriste sans qu'un juge soit consulté. C'est donc la porte ouverte à l'arbitraire le plus expéditif. La loi Avia en avait rêvé. Si on laisse faire, l'ARCOM le fera. La quadrature du net a beaucoup tenté sur le plan judiciaire. C'est ce qu'ils ont su nous rappeler dans les interviews de Bastien. Elle en tire un bilan mitigé et elle appelle à la mobilisation générale. Entendons Bastien.
La quadrature du net fait depuis son existence du plaidoyer, donc on va voir les décideurs et décideuses politiques. On a vu à partir de 2015 que ça ne fonctionnait pas. C'est à ce moment-là où on a commencé à aller voir les juges. Aujourd'hui, on voit très bien qu'aller voir les juges, quand on a des victoires, elles sont de très courte durée, mais la plupart du temps, c'est surtout des défaites. Le Conseil d'État, en avril 2021, a rendu une décision qui est totalement inique. Nous, à la quadrature du net, on a parlé de Frexit sécuritaire. Alors qu'en octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, donc le juge presque suprême en matière de droit de l'Union européenne, avait estimé que la surveillance administrative par les services de renseignement français était contraire au droit de l'Union européenne, le Conseil d'État, quelques mois après, en avril 2021, a tordu le bras à la décision de la Cour de justice en estimant que tout allait bien, que les services de renseignement français pouvaient continuer leur surveillance de masse en dehors de tout contrôle démocratique. Et cette décision, elle est vraiment un exemple topique de cette défaillance des contre-pouvoirs ici du Conseil d'État, parce que la Cour de justice aurait dû être écoutée et le Conseil d'État a donné raison au gouvernement en créant cette sorte de Frexit sécuritaire, c'est-à-dire en refusant d'appliquer finalement des droits fondamentaux très basiques que sont le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a une lutte à réinventer, très clairement. Aujourd'hui, ces institutions ne sont pas un contre-pouvoir efficace. Le contre-pouvoir efficace, c'est la mobilisation citoyenne. On l'a vu, pourquoi est-ce que la proposition de loi sécurité globale est censurée en grande partie ? Probablement parce que c'est un des textes qui a fait le plus réagir les personnes qui sont les premières concernées par cette accentuation de la surveillance.
C'est de l'ouvrir. Où nous débattons dans les pattes, on ne cessera de courir. Je croyais vraiment que j'allais la fermer. Fais-moi muet, demain je me mets au graphe, enfoiré. Le bateau coule, je vais pas chanter que tout est cool. Là je suis pas cool, je suis vénère. Il est plus temps de le dire, il est temps de le faire. Donne le ton dans les temps, dans la tête, dans les taux. Tenez-vous bien, tenez-vous prêt. Y'a plus temps de l'autre jour où tenez mes frères. C'est temps de le faire que tout s'illumine. Je passe par la mine pour flatter l'ego. Pose de mes go, par la mine.
Je suis en colère, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça fait des années que ça dure. C'est là, au fond de moi, révolutionnaire. C'est mon avis, je le partage. Tu crois pas, c'est pas grave, mais pas question de me taire. Je suis en colère, et j'y peux rien, ça passe pas. Même quand je me bouffe les doigts, tant d'injustice autour de moi, ça me vénère. Alors je prends le mic et je le chante, hors de question, je me planque, je suis en colère.
Serial rimeur qui récidive sans un remords. Cartouche en plein cœur, j'aime l'amour et pas la mort. Comme du caméo effort, qu'une vie ça n'a pas de prix. Justice et liberté, que tu viennes d'ailleurs ou d'ici. Passe-moi le mic, je t'ai pas dit que j'endais les armes. Je rechargeais mon barillet, de rimes ça sert et punchline. Malade de la gâchette, je reviens des fourrailles comme un dingue. Conscient qu'un lyrique ça a bien plus de portée qu'un flingue.
Eh bien, on espère que ce morceau vous aura redonné la pêche après toutes ces nouvelles un peu stressantes, c'est vrai. Nous allons écouter maintenant Marwan Mohamed, ancien directeur du CCIF, qui nous explique leur position face à la dissolution qui a été ordonnée à leur endroit.
Travail, celui de la préservation des libertés fondamentales. Il y a Gérald Darmanin qui demande la dissolution du CCIF. Alors là, franchement, je me pose des questions juste plus larges en fait sur Gérald Darmanin et ses motivations. Il y a quelques années, il soutenait le CCIF, il participait même à une conférence au premier rang dans le Nord, à Tourcoing, pour soutenir la lutte contre l'islamophobie. Aujourd'hui, il demande la dissolution de l'association. Sincèrement, ce n'est pas très sérieux. Il n'y a pas de base factuelle, il n'y a pas de base juridique pour dissoudre le CCIF. Ça veut dire qu'en fait, cette déclaration, elle repose sur une volonté politique. Une volonté de criminaliser la lutte contre l'islamophobie en particulier et la lutte pour la préservation des libertés fondamentales de manière générale. Et on voit que malheureusement, ce gouvernement, une étape après l'autre, a été initialement élu pour faire barrage au Front National, je ne l'appelle pas le Rassemblement National parce qu'il n'a rien de rassembleur, et qui, 3 années plus tard, se retrouve à lui faire le plein d'essence. Donc cette dynamique, une année après l'autre, de droitisation et d'intériorisation, d'incorporation en fait, de l'idéologie d'extrême droite dans les mesures du pouvoir et dans une dérive qui est parfois autoritaire, ça là, c'est un processus qui est très dangereux parce qu'en fait, ça démontre que quand le gouvernement est en échec sur le plan politique, économique, social, éducatif, sanitaire dans notre pays, il a besoin de trouver des boucs émissaires et son seul moyen de trouver des réserves de soutien et des réserves de voix en projection de l'élection présidentielle qui arrive, c'est d'aller braconner sur les terres de l'extrême.
Donc là, on vient d'entendre Marwan Mohamed donc, qui quand même rappelle tout un tas de choses qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui agit par étapes, et on a un peu une sorte de décor politique qui s'inscrit progressivement dans le paysage français et dans la démocratie française, qui quand même nous semble aujourd'hui un peu branlante. C'est pas un mythe hein, que de dire qu'il y a des droits et libertés fondamentaux qui sont un petit peu mis à mal et complètement menacés. Sans rentrer dans une grande analyse des enjeux un peu politiques de la dissolution du CCIF qui s'est fait il y a maintenant 1 an et demi et qui a été un peu passé sous les radars médiatiques hein, par rapport à la menace là, pour Nantes révoltée. Mais quand même, pour redonner un peu quelques points importants, il me semble, donc le CCIF existait depuis 2004 et avait pour objet principal la lutte contre les violences et les discriminations en raison d'une religion réelle ou supposée. On avait donc une association qui œuvrait vraiment dans le sens de l'accès aux droits et de la préservation des libertés et qui, comme l'a dit Marwan Mohamed dans l'extrait, œuvrait à la visibilisation de l'islamophobie en France en proposant une assistante juridique quotidienne pour celles et ceux qui la subissaient. La question qu'on peut se poser, au-delà de toute cette dérive autoritaire, de la droitisation un peu du débat, de la ligne politique et d'une retouche profonde et structurelle des lois qui a un peu fondé cette Ve République, là, c'est qu'en fait, les batailles judiciaires du CCIF, elles ont vraiment permis des revirements jurisprudentiels qui ont été importants et qui ont un peu retoqué tout un tas de dispositions gouvernementales sur les 20 dernières années. C'est peut-être pour ça que l'association dérangeait. Pour en citer que 3, en 2013, il y a, donc suite aux batailles hein, menées par le CCIF et leurs avocats, il y a un avis du Conseil d'État qui a été émis et qui s'est prononcé, le Conseil d'État, contre l'exclusion des mères qui portaient le voile lors des sorties scolaires. Aujourd'hui, ça a été retouché hein, depuis que Blanquer est là, mais quand même. De même, le CCIF a permis le fait que la Cour de justice européenne, en 2017, est revenue et a un peu posé des limites sur les restrictions qui commençaient à être à l'œuvre en France sur le port du hijab dans les entreprises privées, où le CCIF s'est aussi battu à l'été 2016 lorsqu'il y avait tout un tas de polémiques, parce qu'on parle de ça, de polémiques, avec tout un tas d'arrêtés anti-burkini qui étaient pris. On a donc effectivement une sorte de pouvoir là qui sort les ongles et un peu se rétracte sur lui-même. Marwan Mohamed, il parle de bouc émissaire. Effectivement, quand on est face à une crise économique, sanitaire, sociale, On a envie d'imaginer un peu une islamophobie comme, je sais pas, une sorte de stratégie de diversion face à tout ça et qui permettrait aux puissants de continuer à la défense de leurs intérêts par ailleurs. Mais on peut peut-être quand même un petit peu nuancer cette vision-là. C'est clairement une stratégie de diversion quand on s'en tient au prisme médiatique, là. Mais en fait, l'islamophobie qui est rampante, là... s'institutionnalise ou est en train d'institutionnaliser le fait qu'en fait on crée des ennemis intérieurs en France. On parle quand même de millions de Français qui sont musulmans, ou on peut augmenter encore le nombre de millions de Français lorsqu'en fait on s'intéresse à la religiosité qui est réelle ou supposée. Et tranquillement, on invisibilise, on mate et on criminalise des personnes et des pratiques. On a donc une sombre époque là qui nous demande un petit peu de prendre de la hauteur pour cerner et lutter contre ces dynamiques et ces logiques autoritaires et répressives qui, en fait, ne demandent qu'à s'étendre à d'autres franges de la société civile, vu tout l'arsenal législatif, politique, sécuritaire et numérique qu'on a détaillé tout à l'heure, qui est à la disposition de n'importe quel gouvernant. Voilà pour prolonger un peu le propos de Marwan Mohamed. Je vais passer la parole à Lily qui va revenir un peu sur le chiffon qu'on brandit très souvent et qu'on a déjà un tout petit peu évoqué au micro là, qui est le grand islamo-gauchisme.
Oui, il n'y a pas que les médias alternatifs, les militants ou les associations religieuses qui ont été attaqués par ces offensives réactionnaires. Le monde de l'enseignement a lui aussi été touché. Le gouvernement, non content de s'attaquer aux musulmans, s'en est pris aussi aux universitaires plus particulièrement aux sociologues. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai été moi-même étudiante en sociologie et donc toute cette histoire m'a particulièrement touchée. Donc en 2020, les universitaires se sont retrouvés accusés du jour au lendemain de complicité avec des soi-disant ennemis de l'intérieur sous le néologisme incompréhensible d'islamo-gauchisme. Un slogan politique qui ne correspond à aucune réalité scientifique, comme l'a souligné le CNRS, et qu'il conviendrait de laisser sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite qui l'a popularisé, comme l'ont fait remarquer, non sans sel, les présidents d'université. Il s'agit en effet d'un amalgame, d'un mot fourre-tout qui mêle la gauche, les musulmans et l'islamiste, donc soit des individus et des groupes très différents qui ne correspondent à aucune réalité. Mais l'objectif ici n'est pas de décrire la réalité, il s'agit de jouer sur les images pour agir sur les imaginaires. Dans le même genre, on peut citer le concept farfelu de judéo-bolchevique véhiculé sous le régime nazi et par les droites extrêmes européennes des années 30. L'objectif dans les deux cas était de désigner des adversaires politiques du parti au pouvoir comme des ennemis de la nation tout entière, des traîtres à la patrie, des complices du terrorisme. En revanche, le fait d'associer les chercheurs de l'université à l'extrême gauche et au terrorisme, voilà qui est un peu nouveau et assez audacieux de leur part. Les sciences sociales, et plus particulièrement la sociologie, se sont fait attaquer par Blanquer et Vidal à cause de travaux sur l'intersectionnalité et le postcolonialisme. Des travaux donc qui s'intéressent aux inégalités, aux discriminations, mais aussi à l'évolution des sociétés, notamment dans les dom-tom. L'intersectionnalité, plus précisément, est un concept sociologique utilisé pour mesurer l'impact de discriminations multiples, de sexe, de classe, de race, mais aussi de handicap ou d'orientation sexuelle. Des discriminations qui se croisent parfois et qui se renforcent, mais pas toujours. Et si ces travaux peuvent être effectués par des chercheurs situés à gauche politiquement, cela ne les rend pas pour autant moins scientifiques. En sciences sociales comme dans les autres sciences, c'est l'évaluation par les pairs qui donne la validité aux travaux scientifiques. Et en l'occurrence, tous ces travaux étaient bien sûr validés par le CNRS. Et là, encore une fois, aucun lien avec le terrorisme. Il y a cependant un semblant de lien entre toutes ces attaques, car si ces travaux de chercheurs... car ces travaux de chercheurs peuvent effectivement servir à des organisations politiques situées à gauche pour dénoncer la persistance du racisme. Or, le gouvernement ne veut plus entendre parler de ce mot qui pourrait par ailleurs remettre en cause sa politique xénophobe actuelle. Normal donc qu'il s'en prenne aux sciences sociales, qu'il étudie.
La machine à découdre.
Un point de vue décousu!
Yeah.
Il semblerait, à l'heure actuelle, que le simple fait donc de considérer les inégalités et les discriminations comme sujet d'étude soit considéré comme une menace par le gouvernement. Et à ce sujet, la dissolution et le remaniement d'un certain nombre d'observatoires et de conseils indépendants dans la recherche et l'éducation est assez inquiétant. Les observatoires sociaux sont des organismes qui reçoivent des subventions publiques grâce à des aides de l'État et des collectivités territoriales, mais qui avaient une relative indépendance jusqu'à présent qui leur permettait de garder une certaine neutralité dans leurs rapports. Neutralité qui a été récemment mise à mal par les chambardements administratifs du gouvernement. En 2020, le gouvernement a purement et simplement supprimé l'Observatoire de la laïcité pour le remplacer par un comité interministériel de la laïcité placé sous la présidence du Premier ministre. Une reprise en main étatique de la question de la laïcité, donc, comme l'a souligné Philippe Portier, spécialiste de la laïcité à l'École pratique des hautes études, et qui supprime totalement les dimensions d'observation et d'analyse de l'Observatoire pour ne laisser qu'une gestion purement administrative. Peu goûteux de cette laïcité offensive, Jean-Louis Bianco, l'ancien président de l'Observatoire, a décidé de créer sa propre vigie de la laïcité afin de garder un bastion de résistance. L'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales a lui aussi été supprimé pour être remplacé en 2021 par un simple Observatoire de la réponse pénale, un organisme qui ne s'intéresse qu'aux infractions commises contre les forces de l'ordre. Là, on est en plein glissement réactionnaire. On passe quand même d'un observatoire qui s'intéressait à un processus pénal dans sa globalité, même si le terme de délinquance est plus que critiquable, à un organisme qui ne s'intéresse qu'aux violences sur les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'on en arrive à une vision biaisée du soi-disant ensauvagement de la population. Rappelez-vous de Darmanin qui invoquait le bon sens du charcutier de Tourcoing. À l'époque, il s'était fait remettre à sa place par les statistiques qui montraient qu'au contraire, les violences n'avaient pas augmenté et étaient même plutôt en baisse. Elles montraient également que la justice était de plus en plus ferme en matière de peine de prison. Mais tout ça n'allait pas à Darmanin. Et maintenant, grâce à ce nouvel observatoire, il a enfin du grain à moudre. D'ailleurs, cet observatoire vient de sortir un rapport qui montre à quel point les violences contre les forces de l'ordre ont augmenté. Une analyse sans contexte, qui ne montre pas le cadre dans lequel elles ont pris place et n'offre pas une comparaison assez lointaine dans le temps, mais qui a été tour à tour reprise par CNews, Alliance et l'extrême droite. Comme le redoutait en 2021 le sociologue Christian Moine, cet observatoire apparaît surtout comme une nouvelle étape de la prise en main du ministère de la Justice par l'intérieur, voire par les syndicats de policiers. En plus de tout ça, on pourrait aussi parler du démantèlement du CNESCO dans l'éducation, conseil national chargé de l'évaluation du système scolaire. Blanquer a tout de même fait le tour de force de démanteler cette instance chargée d'évaluer l'efficacité de ces réformes éducatives pour en faire un instrument de surveillance au service du ministère. Il l'a supprimé et remplacé par le conseil d'évaluation de l'école chargé de surveiller la bonne application des programmes par les établissements scolaires. Un changement qui révèle pour le SNUIP-FSU une volonté de contrôle et d'uniformisation des pratiques. Une uniformisation que Blanquer a aussi essayé de faire dans les programmes scolaires. Souvenez-vous de ce scandale autour des programmes d'histoire. Les enseignants étaient indignés de la disparition du thème de l'immigration. Et pour cause, le Conseil supérieur des programmes a été noyauté par des individus partageant la même volonté de Blanquer de revenir aux fondamentaux de l'histoire. Autrement dit, une vision superficielle et européocentrée. Mais de quoi de plus évident, venant d'un nostalgique des années 40 qui a réintroduit l'hymne national dans les lycées et s'est posé en inquisiteur de l'islamo-gauchisme aux côtés de Madame Vidal. D'ailleurs, en parlant d'inquisition, Blanquer a justement présidé un colloque à la Sorbonne il y a quelques semaines, organisé par l'Observatoire du décolonialisme. Un colloque portant sur la critique du déconstructivisme, du wokisme et des idées intersectionnelles, où s'est pressé tout le petit beau monde de droite et d'extrême droite. D'après en tout cas le rapport qu'on avait fait Nantes Révoltée, les passes étant contrôlées par les militants de l'UNI, le syndicat étudiant d'extrême droite, et où Blanquer a de nouveau attaqué les universitaires complices, selon lui, du terrorisme. Comme l'ont relayé Nantes Révoltée, sur le fond, au pupitre de la Sorbonne, des propos dignes d'un plateau télévisé de droite dure. On y entend parler d'épidémie de transgenre, de soleil noir des minorités, et Pierre-André Taguieff a même qualifié le wokisme d'ethnocide de grande ampleur. Un événement qui avait pas mal secoué la presse, car même Le Monde, pourtant peu engagé à gauche, s'en est ému en questionnant l'apparition d'une possible police de la pensée qui sanctionnerait toute recherche suspectée d'être contaminée par le prétendu wokisme. Et en effet, il y a de quoi être inquiet, car tous ces petits changements mis bout à bout prennent une dimension tentaculaire. On se retrouve avec des attaques contre la liberté de la presse, la liberté de croyance, la liberté d'expression et la liberté de la recherche. Tout ce qui menace le schéma de pensée et les choix politiques du gouvernement se retrouve dénigré, menacé ou sanctionné. De la chasse aux sorciers au ministère de la Vérité, il n'y a qu'un pas.
Après toutes ces bonnes choses, pensons à rejoindre la rue. Une manif est organisée à Lyon le samedi 19 février, puis le 26 février, place Guichard, à 14h, par un collectif unitaire anti-autoritaire. Ce collectif regroupe pour le moment l'Assemblée en lutte contre le pass sanitaire et vaccinal Lyon-Oulin, le Conseil national de la nouvelle résistance de Lyon, Occupons 69, l'Assemblée des Gilets jaunes Lyon et environ, Stop 5G Lyon, Écran Total Rhône-Alpes, Extinction Rébellion de Lyon, ainsi que des militants, militantes, pour combattre la logique techno-sécuritaire du pass sanitaire et du pass vaccinal, non pas dans une perspective de rupture, mais de continuité avec les autres dispositifs de surveillance, loi renseignement, loi sécurité sociale, globale, loi drone 2, reconnaissance faciale, etc. Déjà en place et à venir. Il est vital de questionner les politiques de santé publique, le système et les causes qui ont conduit à de telles crises sanitaires, comme il est aussi vital de s'opposer à la récupération politique faite par l'extrême droite. Nous appelons à la création d'un fonds commun équivalent, d'un front commun équivalent à Saint-Étienne, apte à combattre la surveillance généralisée, et aussi l'emprise du numérique sur nos vies, la destruction des services publics et de la planète. Il est urgent d'engager des débats démocratiques pour décider d'un autre choix de société, solidaire, protecteur, pour le vivant et la planète.
Impeccable, et du coup pour avoir un futur un peu plus désirable, vu que c'est le petit moment pub de l'émission, on en profite au couac pour vous informer que le numéro 14 commence à être en cours de préparation. On aimerait le sortir pour le 1er mai. Du coup, on vous invite, nous, à rejoindre nos colonnes. Denis nous invitait à rejoindre la rue, puisque justement, pour le prochain numéro, on se lance dans un dossier là qui pourrait avoir un peu un intitulé un peu poétique. On voudrait appeler ça « C'était mieux après, un canard perdu dans son époque ». Parce que clairement, on a envie d'élaborer une critique sur le futur qu'on nous vend et qu'on est en train de construire à notre place, mais également sur une vision un peu fantasmée du passé ou d'heures de gloire qui ne sont peut-être plus là. Le couac est donc parti dans les couloirs du temps pour voir si c'était vraiment vieux, mieux avant, comme le vendent les fabricants de rêves passéistes frelatés, à l'heure où, parallèlement, on nous propose des avenirs glorieux. Si vous aussi ça vous déprime et que vous vous demandez où est passé le présent dans tout ça, proposez un article pour le prochain numéro du couac. Vous pouvez donc nous contacter à couac@riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Et en gros, quand on veut sortir un numéro le 1er mai, ça veut dire que les articles doivent être finalisés au 1er avril et qu'en gros, on commence à s'y pencher avec sérieux au 1er mars. Voilà.
On en profite aussi pour vous rappeler les différents points de vente du couac. Du coup, vous pouvez le trouver à Croquelinotte, l'une et l'autre, au Terroir, à Jacquard, à l'Étrange Rendez-vous, au Méliès-Saint-François, à la Brasserie Stéphanoise. Et vous pouvez nous trouver aussi en manif et sur les marchés, parfois. Dépêchez-vous, il y a presque plus de journaux disponibles avant le prochain numéro. Donc on va être sur la fin de cette émission de la Machine à découdre spéciale Machine à dissoudre ce mois-ci. Et on va se retrouver dans un mois pour parler à nouveau du thème du dernier numéro qui était le sport. On va parler des prochains Jeux Olympiques avec la revue Après la Révolution, qui est une revue stéphanoise, qui sort un numéro spécial Jeux Olympiques. Donc on en discutera avec eux et elles. Et puis dans deux mois, on se voit pour parler des éoliennes, des projets d'éoliennes qui commencent à avoir... à prendre pas mal de place sur toute la Loire et dont on avait fait un petit article dans le dernier numéro. Et voilà pour nous, à bientôt.
Merci.
Merci.